Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, intégrée à La Relève, l'agence food créative que j'ai cofondée en 2020, spécialisée dans les projets culinaires, les partenariats food et le management de chefs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Moïse Fès à la tête d'Homer Food Group.
J'ai été les voir au food market, j'ai fait du forcing, ils m'ont donné un rendez-vous dans 3 semaines. Normalement, c'est 6 mois d'attente à cette période. Et je vais à leur bureau, j'avais pas compris qu'il fallait leur faire livrer des sandwichs. C'est une vraie anecdote. Tout est vrai. Dans ce que je raconte, je n'exagère pas. J'ai pas de cuisine. Moi, je faisais mes lobster rolls dans ma cuisine, chez moi, chez mes parents. Et j'arrive avec mon scooter. J'avais un scooter 3 roues. J'avais des sacs tati devant, mes machines derrière, ma plaque à induction, ma grosse casserole, mes homards vivants. Et j'arrive dans leur bureau avec 4 sacs tati. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tout ça? Je dis, bah, je vais vous montrer comment on fait des lobster rolls de A à Z. Ils me disent, mais fallait juste livrer les produits. Et je dis, bah maintenant que je suis là, c'est mort, je vais les faire. Et donc je vais, ils ont même pas de cuisine, ils ont une petite kitchenette. Et donc j'ai préparé des lobster rolls from scratch, donc avec les homards, avec tout, le pain brioché, j'ai tout fait en même pas 30 minutes. Et je leur ai fait pour toute l'équipe, elles étaient 8. Et elles m'ont dit, bah attends, assis-toi, on va déguster devant toi. Elles ont dégusté, elles m'ont dit, ok, tu fais le prochain food market. Et l'histoire d'Homer en vrai a démarré comme ça.
Mais avant de faire les présentations, quelques précisions sur cet enregistrement qui a été fait dans un contexte particulier, celui du Podcast Club, initié par le Club Med. Avec d'autres podcasteurs comme Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, Hortense Leluc de Décodeur ou Marie-Faure Ambroise de Beau Voyage, nous avons été invités à passer une semaine en résidence au sein du Club Med de La Rosière, dans les Alpes françaises, et à enregistrer dans le confort douillet d'une suite exclusive collection du resort. Alors encore un grand merci au Club Med et à ses équipes pour ce moment inspirant et hors du temps. Et pour revenir à Moïse Fès, il est l'heureux fondateur d'un petit groupe de restaurants spécialisés en street food comptant une douzaine d'adresses. Précurseur du sandwich gourmet, il s'est fait connaître avec une première marque, Homer, rendant hommage au lobster roll, puis s'est diversifié avec une deuxième enseigne, Jeannette, faisant la part belle au sandwich. Il planche actuellement sur l'ouverture d'un troisième concept dédié au café et aux gaufres liégeoises. Monomaniaque du sandwich et intarissable sur le sujet, Moïse continue de développer son business et son art depuis 7 ans en suivant ses envies, avec toujours une bonne dose d'instinct business. Avec Moïse, nous avons parlé de New York, de routine et de quête de la recette parfaite. Bonne écoute! Bonjour Moïse.
Bonjour.
Merci de m'avoir suivi dans cet enregistrement un peu particulier. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien enregistrer dans l'intimité de mes invités, dans leur restaurant souvent. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que on a la vue sur les montagnes, on est au Club Med de La Rosière qui nous a invités dans le cadre d'une semaine podcast club qu'ils ont organisée. Et voilà, tu reviens d'une balade en raquette.
Complètement, complètement, très sportive.
Ouais, on est dans une suite confortable, voilà, on est prêt. T'enchaînes entre Miami et Monaco à la tête d'un groupe de 12 adresses aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive souvent de faire des pauses comme ça dans tes semaines de folie ?
Alors, j'essaye toujours de m'imposer au moins une pause par semaine, à savoir les week-ends. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aime justement dans ce côté entrepreneurial et dans ma vie. C'est que je bouge tout le temps, que je rencontre plein de monde, que ça va à 100 à l'heure. Et j'aime un peu ce côté fast life que je cherche justement.
On a discuté un peu hier de ça sur le trajet pour venir à La Rosière. Et tu disais c'est quelque chose que tu t'es autorisé à un moment donné aussi de t'octroyer des pauses et de profiter aussi de ce que t'offre cette opportunité d'être entrepreneur et de choisir en fait d'être maître.
Complètement. Alors, c'est vrai que le travail est important, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'aime faire. Mon comptable un jour m'a je te répète l'histoire, je te la refais. Mais en gros, mon comptable un jour m'a attrapé et m'a dit OK, aujourd'hui tu sais vers quel chemin prendre. Tu sais comment appliquer toutes les idées que tu as en tête, mais c'est pas tout. Il faut aussi savoir profiter du fruit de ce que tu as créé et profiter de ce que tu fais aussi, parce que j'avançais vraiment tête baissée, et ça m'a fait comme un déclic dans ma tête, où à partir de ce moment-là, j'ai décidé, je me suis pris mes premières vraies vacances au bout de 3 ans d'activité où j'étais pas vraiment parti en vacances parce que c'était le travail. Et depuis ce jour-là, j'ai une vision de la vie qui est complètement différente, où tout ce que je fais dans le travail, je vais faire en sorte d'en tirer profit, de profiter, mais aussi surtout de profiter de ce que ça m'a apporté par la suite. Et de pouvoir voyager, de pouvoir me couper un petit peu, de pouvoir découvrir des choses personnellement et pas que professionnellement. Donc j'essaye de me l'octroyer et je savoure tellement quand ça arrive.
Et ça nourrit ton travail, ce que tu disais.
Complètement.
Par exemple, le fait d'aller manger des choses à Miami, ville dont tu reviens, ça peut à un moment donné ressurgir dans une inspiration.
Complètement. Alors, pour moi, il n'y a rien qui est fait au hasard. Tous les voyages que je fais m'ont apporté quelque chose. À chaque fois que je vais au restaurant, dès que je vais découvrir une nouvelle chose, ça peut me donner une idée qui va mûrir et qui va sortir même dans un an. Ou alors que c'est gardé dans un coin de ma tête et le fait d'avoir refait plus tard. Mais chaque voyage m'a apporté quelque chose et m'a nourri dans mon développement, dans ma création, dans mes idées.
Donc c'est important de prendre,
hyper important.
De prendre le temps de se nourrir à l'extérieur.
Les meilleures idées, elles tombent quand tu commences à prendre du temps pour toi. Pour moi, pour ma part. C'est-à-dire quand j'avance tête dans le guidon, je me focus sur ce que je dois faire. Par contre, quand je décide de couper, ça me laisse l'esprit complètement en pause côté pro et ça me laisse l'esprit complètement libre côté perso. Et donc, regarder, observer, découvrir des choses que je n'aurais peut-être pas vues si j'étais tête dans le guidon.
Tu as un exemple ?
J'étais à Dubaï il y a 3 semaines. J'étais voir. J'ai une franchise Omer Lobster à Dubaï et j'ai été le voir. Et c'est vrai que ça faisait 6 mois qu'on l'avait ouvert. Ça travaille très bien, mais je trouve que le potentiel n'est pas encore exploité à sa juste valeur. Et donc j'avais besoin de laisser 6 mois de rodage pour comprendre la façon de consommer local, parce que j'ai juste pris mon concept de Paris et je l'ai adapté à Dubaï. Enfin, je l'ai mis à Dubaï. Et je me suis rendu compte que rien que dans la prise de commande, rien que dans le partage d'informations du menu, de ce qu'on fait, des recettes du concept, c'est pas clair par rapport à ce que tous les autres restos font à Dubaï. Et ça me donne une idée aussi par rapport à Paris, comment améliorer ça. Et ça me donne envie de faire une nouvelle recette. Je vais faire un essai parce que, par exemple, à Dubaï, tout le monde demande de l'avocat. Je vais élaborer une recette avec avocat. Je l'ai essayé à Paris, j'ai juste mis une story. Oh là là, quand est-ce qu'on peut le goûter à Paris? Donc je me dis, c'est ce voyage qui m'a fait prendre conscience que mon offre à Dubaï peut être upgrade x10 et que je peux aussi upgrade mon offre à Paris x10. Mais sans ce voyage, j'aurais pas pu aboutir à tout ça. Et ce qui m'a fait faire un nouveau menu, ce qui m'a fait faire un nouveau design de menu, ce qui m'a fait faire mettre beaucoup de choses en place que je n'avais pas et que je ne m'étais pas rendu compte, rien que juste en analysant la façon de consommer des Dubaïotes.
T'as un gourmand né ?
Ouais.
Ça te vient d'où ?
Alors, mes parents m'ont toujours... J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué à manger des bonnes choses, à faire des bons restos, même à bien cuisiner à la maison. On a toujours reçu beaucoup de monde. J'ai grandi avec cette envie de bien manger et de partager des bonnes choses, des bons produits, des recettes de famille, mais même des choses très simples. Moi, ma grand-mère, elle m'a fait grandir avec une recette de salade de tomates. Quand elle est dans le sud en été, c'est la meilleure salade de tomates que j'ai mangée dans ma vie, par exemple. Mais c'est par la qualité de produit, par l'huile d'olive qu'elle prend, par l'assaisonnement qu'elle fait, qui est très simple. Il y a trois produits, mais c'est le produit. Et donc, j'ai eu l'occasion aussi d'aller dans de très beaux restaurants. Donc, qui m'a fait que j'adore ça, c'est ma passion. Et aujourd'hui, moi, je voyage par rapport à ça. Mes voyages se font en fonction de où je vais manger. Même ma journée va s'organiser en fonction de ce que je vais manger.
Tu vas où, ta prochaine destination ?
Là, je pars à Monaco. Je pars à Monaco après-demain.
Pour manger.
Pour manger, ouais, pour manger, parce qu'il y a des excellents restaurants. Mais non, pour un rendez-vous professionnel cette fois-ci. Mais par exemple, à chaque fois que je vais dans le sud, j'ai un passage obligatoire à la petite maison à Nice. C'est pour moi une des meilleures tables. Alors, il y a aussi le restaurant Nespo que j'aime beaucoup, mais je vais à la petite maison à Nice quasiment 100% des fois où je descends dans le sud.
Ça guide ton chemin.
Ouais, la salade d'artichaut, je me déplace pour manger la salade d'artichaut ou le bar à la provençale avec les artichauts et tomates.
Tu avais envie d'être chef Enfin, ça, c'était quelque chose... parce que tu as fait l'école hôtelière, tu as fait l'école Vatel. Enfin, en tout cas, c'était un choix de ta part ou tu étais un mauvais élève et on t'a dirigé dans cette direction?
Non, je n'ai pas été un mauvais élève. Au contraire, j'avais plutôt des bonnes notes. Bon, j'ai redoublé ma seconde et c'est ce qui m'a fait avoir le déclic. Et après, je suis vraiment rentré dans un état d'esprit un peu compète. Je vais avoir des très bonnes notes, je vais avoir le choix de ce que je veux faire de ma vie. Et j'ai toujours été passionné par la restauration, plus que la cuisine. C'est vraiment la restauration, le métier de restauration qui me passionne parce que c'est le métier de service. Pour te dire, à chaque fois que je sortais, par exemple quand ça va être la fête de la musique, quand ça va être en été, et quand je vais dans des endroits qui marchent, qui fonctionnent, et j'avais pas envie d'aller dans l'endroit qui fonctionne pour vivre l'expérience du client, je me dis putain, j'aimerais être à leur place, moi, de ceux qui bossent et qui reçoivent. Donc j'ai toujours eu un peu cette passion de service, et mon rêve était d'avoir un restaurant. Et j'ai voulu faire l'école hôtelière. Forcément, pour moi, si on décide de se lancer dans la restauration, il faut savoir tout faire. Je ne dis pas qu'il faut être un chef 3 étoiles, mais il faut savoir tout faire. Il faut être indépendant. Parce que sinon, on peut très vite être tenu par n'importe qui de son staff. Donc, pour moi, je voulais créer quelque chose. Et voilà, dans la restauration, après, j'ai toujours eu mon idée de street food en tête. Pour moi, il fallait que j'apprenne le haut de la gastronomie pour l'adapter en street food. Donc j'ai toujours été fan de food, fan de service, pouvoir l'appliquer et après l'appliquer à ma sauce avec ma vision.
Donc, mais tu t'imaginais quand tu étais jeune, enfant ou adolescent, avoir un restaurant?
Ouais, pour moi c'était, je voulais faire ça. Et pour te dire ce qui m'a encore plus conforté dans mon choix, je te parle de ça, j'avais 14 ans, je regardais Cauchemar en cuisine de Gordon Ramsay. Je te jure que c'est vrai. Et c'est fou parce que je voyais les conneries qu'on voyait, mais les conneries que les gens faisaient dans leur restaurant, mais des trucs, mais tu vomis. Et pour moi, c'était tellement logique que ce que Gordon Ramsay raconte, je le disais avant qu'il le raconte, parce que c'est logique. Enfin, c'est ma façon de penser. Et je me disais, au vu du nombre d'épisodes qu'il a fait, c'est le nombre de gens qui ont des restaurants qui font des conneries pareilles. Donc je me dis, bah, c'est bon, je vais avoir un boulevard pour faire
un restaurant,
restaurant comme il faut. À la Gordon Ramsay, entre guillemets. Et c'est ce qui m'a conforté dans mon choix, où je me suis dit, c'est bon, c'est ce que je veux faire. Je veux prouver par A plus B que j'ai pas besoin d'un cauchemar en cuisine, que quelqu'un vienne me redresser mon affaire. Je veux faire ça.
C'était qui tes modèles à cette époque?
Je te dis, voilà, cauchemar en cuisine, c'est ce qui m'a un peu donné envie à 15 ans de vouloir avoir un restaurant. Après, mes modèles, j'ai pas de personne en particulier qui était mes modèles. Moi, j'ai toujours été fasciné par la réussite. C'est-à-dire, par exemple, dès qu'il y allait avoir un article de presse sur quelqu'un qui a entrepris quelque chose, qui a juste été au bout de son projet et réussi à faire ce qu'il voulait faire, ça allait me passionner. Parce que, par exemple, j'ai suivi l'ouverture de Big Mama, de East Mama exactement, c'était juste à côté de chez moi. Je l'ai suivi de A à Z. Et ça peut être des gens qui ont démarré avec des moyens, on s'en fiche. Ils ont été au bout de leur projet et aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à en faire, c'est incroyable. Mais juste le fait d'avoir créé ça, d'avoir été le chercher, d'avoir bossé dessus, et ça me fascine. Et c'est par exemple, quand ils ont lancé, moi j'étais en stage au Peninsula, en première année d'école hôtelière. Et je me dis, voilà, je veux qu'on parle de moi comme on parle d'eux. Par exemple, moi, c'est l'exemple qui me vient en tête. Après, sinon, niveau fascination, ça n'a pas été une personne, mais ça a été plus une philosophie. Moi, j'ai toujours été fasciné par les États-Unis et je voulais en fait absolument partir habiter là-bas. Et c'est la réalité des choses qui m'a rattrapé, où je me suis dit, je partirai habiter là-bas par mon travail. Mais j'ai besoin d'apprendre un travail et j'ai besoin de démarrer le travail pour pouvoir partir là-bas.
Donc tu commences l'école hôtelière avec cette idée en tête, en tout cas un jour d'avoir ton restaurant.
Là-bas. Partir vivre là-bas. Ouais.
Dans ton parcours d'école hôtelière, t'as fait du service, t'as fait de la cuisine aussi. T'as travaillé dans des palaces, tu parlais du Peninsula. Après, t'as travaillé aussi au Dorchester.
Chez Alain Ducasse, au Dorchester, exactement.
Chez Alain Ducasse.
Et au Meurice aussi un petit peu.
Plutôt dans la haute gastronomie, finalement. Et est-ce que ce restaurant que tu avais en tête, tu l'avais déjà imaginé sur le côté street food? Comment c'est venu? Est-ce que tu as...
Alors, de base, je voulais pas que ça soit street food. Pour moi, j'avais le concept du lobster. Je voulais que ça soit mon concept. J'avais découvert ça à New York quand j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai découvert ça en y retournant. Ensuite, j'ai découvert ça à Londres. Et je savais qu'il n'y avait pas ça à Paris. Donc pour moi, je voulais d'abord faire un resto. Mais avant de savoir quel style de resto je voulais faire, comment je voulais le faire, pour moi, il fallait passer par la plus haute des gastronomies pour pouvoir appliquer comme tu le souhaites. Pour moi, plus tu tapes haut, plus tu vas avoir du choix et tu vas avoir un champ libre pour le faire en fonction de ce que tu as envie. Et j'ai fait le Peninsula, ouverture du Peninsula, qui a été une ouverture extraordinaire, un palace qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'ai eu la chance de travailler au restaurant gastronomique cantonais, le Lily. Après, je suis parti chez Alain Ducasse au Dorchester. Donc là, on est dans le 3 étoiles Michelin. On est dans le militaire. Mais j'ai appris la rigueur. J'ai appris la gastronomie. J'ai appris la dureté du travail. Mais j'ai aussi appris ce que je ne souhaitais pas. Donc j'ai autant appris ce que je voulais que ce que je ne souhaitais pas appliquer.
Est-ce que tu voulais pas ? Qu'est-ce que tu voulais pas ? Enfin, qu'est-ce que tu veux pas ?
Bah, par exemple, je vais te donner deux exemples opposés de mon expérience chez Alain Ducasse. Je me suis lié d'amitié avec le chef, qui est chef 3 étoiles. Moi, je rentre en stagiaire, donc je me suis lié d'amitié parce que par sa vision, par son état d'esprit, par l'envie de partager. Pour te dire, moi, j'arrive, je suis commis. Toute la journée, j'ai envie de goûter ce qu'ils font. J'ai envie de sentir, j'ai envie de goûter. Je suis devant la cuisine. Je dis, mais vous faites quoi ? Mais pourquoi vous faites comme ça ? Et comment vous faites ? Parce que ça m'intéresse. Et moi, même, il me donne juste une info, je la note, elle est gravée. Et de l'autre côté, en salle, le directeur de salle a été, je pense, une des personnes les plus méchantes que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Mais ça m'a... Bon, même qui a tout fait pour que j'essaye de craquer, mais il n'a pas compris, c'est que j'ai un plan A et je m'y tiens parce que j'ai mon projet derrière. Donc, je vais pas partir en pleurant, je vais pas... C'est comme ça, c'est le job. J'y suis, j'y reste. C'est très militaire. Je ne partage pas cette philosophie parce que dans ce style d'établissement, on te dit d'aller du point A au point B de cette manière et on va surtout faire attention quelle manière tu utilises pour aller du point A au point B. Et moi, j'ai une philosophie de vie où va au point B le plus efficacement possible. Donc déjà, ça colle pas. Je cherche à être efficace, eux à être protocolaires. Donc, et au vu de l'attitude de certaines personnes que j'ai vues là-bas, ça m'a renforcé professionnellement parlant, mais ça m'a aussi surtout appris, voilà, j'ai vu cette personne, je ne serai jamais comme ça. Et si je le serai demain, je ferai tout pour essayer de changer, redevenir et devenir une personne autre que ce que j'ai vécu là. Et de l'autre côté, le chef m'a permis de m'ouvrir l'esprit, de m'encourager et d'aller au bout. Franchement, ces encouragements et c'est le fait d'y croire un minimum, m'a permis psychologiquement de me dire bah, « c'est bien ce que je vais faire ». Donc voilà ce que j'ai appris en vrai de vrai là-bas.
Donc après, tu reviens à Paris.
Et c'est la guerre après. Non, mais après, je reviens à Paris. Je rentre à Paris.
Tu travailles au Meurice ?
En fait, ouais, je travaille au Meurice, mais je travaille au Meurice. C'est le chef Jocelyn Erland qui était à Londres, justement avant, et qui me prend vraiment pour me... je lui dis « je veux tout connaître sur le homard ». Je veux savoir dépiauter un homard en moins d'une minute, les accords, les cuissons. Je veux être capable de tout gérer sur le homard. Et franchement, il m'a appris ce que je devais savoir. Et ensuite, j'ai fait en sorte d'élaborer mon pain brioché. Ça a pris un peu plus d'un an. Je me suis entraîné sur les cuissons de homard. J'ai fait mes sauces. J'ai bossé. Je dessinais mon logo. J'ai encore les carnets où je dessinais mon logo, les noms. Et je bossais sur le nom. Et je me rappelle quand j'ai eu l'idée d'Homer, je demandais aux gens autour de moi et je disais « qu'est-ce que tu penses si je l'appelle Homer ?» Et tout, je me disais « ah, comme les Simpsons, ah, comme l'Odyssée, ah, mais le « a » d'une façon négative. » Et en fait, moi, ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde a une référence par rapport à ce nom. Et je dis « c'est bon, j'ai le meilleur nom du monde, tout le monde s'en rappellera. » Parce que ceux qui diront « ah, le lobster roll, ah, Simpson, Homer. » Ouais, on s'en souvient. « Ah, Odyssée. » Donc ça s'est fait comme ça, c'est comme ça que j'ai appelé Homer. J'ai démarré sur un food market. le food market boulevard de Belleville. J'ai galéré pour y accéder. J'ai vraiment galéré. Je les ai harcelés, la propriétaire Virginie Godard pourra attester si on lui demande. Mais je les ai harcelés, on parle de harcèlement pour le coup là. C'est un mot qu'il ne faut pas trop utiliser, mais j'ai harcelé ces personnes pour pouvoir participer. Parce que je me rappelle, on était au mois de février, je finis l'école en juin. Je n'ai pas de temps à perdre puisque moi, il y a... Encore une fois, comme je te dis, j'ai un plan en tête. Il faut qu'à la fin de l'école, j'ai de quoi ouvrir un restaurant. J'ai une opportunité pour me lancer. Et donc, je les avais vus dans Très Très Bon, dans l'émission sur Paris Première. Et j'ai été les voir au food market. J'ai fait du forcing. Ils m'ont donné un rendez-vous dans 3 semaines. Normalement, c'est 6 mois d'attente à cette période. À ce moment-là où le food market était en pleine explosion. Et je vais à leur bureau. Je n'avais pas compris qu'il fallait leur faire livrer des sandwichs. C'est une vraie anecdote. Tout est vrai. Dans ce que je raconte, je n'exagère pas. J'ai pas de cuisine. Moi, je faisais mes lobster rolls dans ma cuisine, chez moi, chez mes parents. Et j'arrive avec mon scooter. J'avais un scooter 3 roues. J'avais des sacs tati devant, mes machines derrière, ma plaque à induction, ma grosse casserole, mes homards vivants. Et j'arrive dans leur bureau avec 4 sacs tati. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tout ça? Je dis, bah, je vais vous montrer comment on fait des lobster rolls de A à Z. Ils me disent, mais fallait juste livrer les produits. Je dis, bah, maintenant que je suis là, c'est mort, je vais les faire. Et donc, ils ont même pas de cuisine. Ils ont une petite kitchenette. Et donc, j'ai préparé des lobster rolls from scratch, donc avec les homards, avec tout, le pain brioché. J'ai tout fait en même pas 30 minutes. Et je leur ai fait pour toute l'équipe. Elles étaient 8. Et elles m'ont dit, bah attends, assis-toi, on va déguster devant toi. Elles ont dégusté. Elles m'ont dit, OK, tu fais le prochain food market. Et l'histoire d'Omer en vrai a démarré comme ça. J'ai démarré, je vendais à perte. Food market, on n'a pas le droit de vendre à plus de 10 euros. Ça me coûtait 12 euros à l'époque, le lobster roll.
Ouais.
Bah, j'ai acheté mon marché métro. Le pain, on le produisait en très petite quantité. C'était une galère.
Ouais, c'était plus pour te faire connaître. Moi.
Ouais, c'était du marketing.
Ouais.
C'était, la perte que j'avais sur mes sandwichs, on va dire que c'était le marketing que j'ai investi personnellement et économiquement pour faire goûter mes produits et avoir des retours. Et premier food market, 250 pièces, sold out en 1 heure. Deuxième food market, 350 pièces, sold out en 1 heure et demie. Troisième food market, 450 pièces, sold out en 2 heures. Au total, pour tout écouler. C'était extraordinaire. Faut savoir que le premier food market, il pleuvait à torrents. Personne n'a travaillé. Il y avait un engouement autour de notre stand. Comme s'il ne pleuvait pas au-dessus de notre stand. C'était fou. Je te montrerai une photo. C'était fou ce qui se passait, l'énergie qu'il y avait. Et je me rappelle, le lendemain, mon père me dit, ils ne sont pas venus pour toi. Ils sont venus pour le food market, ce n'est pas tes clients. Donc arrête de t'enflammer, tu penses que tu as la science à vue. Ils ne sont pas venus pour toi. Et je le prends très personnellement. Parce qu'il ne me dit pas ça de façon négative, mais il veut me ramener à la réalité. Ne t'enflamme pas. Et c'est très important en soi quand on entreprend quelqu'un qui nous ramène sur terre. Parce que c'est le problème de certaines personnes qui peuvent vite prendre la grosse tête. Moi, j'étais dans l'euphorie, mais tout de suite, il m'a ramené. Il me dit non, tu as tes preuves à faire. C'est rien ça. Deuxième food market, 350 pièces. Et là, je peux te dire que le monde, il était pour nous parce que la queue a dépassé 2 autres stands. Et je me rappelle, j'ai stoppé le stand pendant un moment. Il y avait une personne en caisse qui m'aidait et moi qui faisais sandwich. Mon père était derrière le stand. J'ai été voir, je dis, demande-leur s'ils ne sont pas pour moi là. Demande-leur là s'ils ne sont pas venus pour moi, les gens qui font la queue. Et de là, rien à dire. Et ça se passe super bien. Le troisième qu'on a fait dernier, ça s'est super bien passé. Et après, j'ai été sollicité pour faire quelques événements. Mais en parallèle, j'ai mes cours. J'ai mon diplôme à passer au mois de juin. Et donc, on fait quelques événements, d'ailleurs des échecs comme des très beaux events. Et au mois de juin, je passe mon diplôme, mon bachelor. Et la même semaine, je reçois un mail du BHV qui vont faire un food court dans la cour du BHV Homme, si ça m'intéresse. Maintenant, il faut savoir une chose, on est au mois de juin. Tous les gens de ma classe ont déjà signé pour leur master ou pour un travail ou ont quelque chose. Je suis quelqu'un de tellement borné et persuadé que ça va marcher. Que moi j'ai dit, ça sert à rien de me proposer aucun travail. Vraiment.
Bah, t'avais ton idée en tête.
J'ai mon plan.
Ouais.
Mais vraiment. Et je me retrouve la semaine de mon bachelor, ma directrice très inquiète. Tu veux pas quand même postuler dans cet hôtel? Tu veux pas aller faire des extras? J'ai dit, ça m'intéresse même pas.
Personne n'entreprenait à part toi?
Non. Non. Et on me prenait un peu pour un martien. J'avais pas beaucoup d'amis à Vatel, faut savoir. Parce que j'étais très focus dans mon truc. C'était la seule personne qui a cru en moi. Dans ma classe, qui m'a suivi, qui a cru, qui m'a soutenu, qui m'écoutait et qui vraiment était présente, elle s'appelle Adèle. Aujourd'hui, c'est mon bras droit, c'est mon double, c'est la directrice générale du groupe. Elle bosse avec moi. Donc, c'est mon binôme. Donc, voilà, c'était ma seule amie, à Vatel. Et, Et j'avais vraiment cette ambition de vouloir le faire. Et ben ça paye. Je reçois le mail du BHV, j'ai accepté des conditions catastrophiques, mais catastrophiques, gérées par des gens. C'est pas le BHV direct, c'était en gestion par des gens qui avaient pris la cour en gestion. Une cata. Aujourd'hui, avec le recul, jamais de la vie, j'accepterai. Mais c'était tellement...
C'était le bon moment, c'était...
Tu te rends compte, deuxième jour de mes examens, sur quatre jours, je reçois le mail du BHV, c'est pour démarrer en août. Allez, c'est bon. J'arrête de... Plus besoin de postuler, plus besoin d'angoisser. J'y vais. Je me rappelle, ça m'a coûté une fortune pour rien. Et j'avais le statut étudiant. Et donc, j'ai fait un prêt étudiant. J'ai dit, je voulais financer mon master. J'avais besoin d'argent pour démarrer. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel et que personne ne m'a aidé.
Tu avais quelques machines à acheter.
J'ai la cabane à faire en travaux. J'ai un toaster, j'ai un frigo, j'ai une plaque à induction. Ouais, mine de rien, ça va. Et je me rappelle, j'ai acheté des trucs d'occasion.
Ouais.
J'avais pas les moyens de l'acheter. Enfin, j'avais peur de tout dépenser. J'avais été à Saint-Ouen. Dans un revendeur CHR, ah mais une galère sans nom en plein été.
C'était débrouille quoi au début.
Ouais, tu démarres par la galère et je mets le frigo dans le coffre, je ferme le coffre, la vitre se fracasse. J'en ai eu des, je te raconte même pas. et en gros.
Il fallait plus que ça pour te décourager.
Eh ben j'arrive à voir un pré-étudiant, c'est mon meilleur ami qui bosse en finance, qui me dit bah fais un pré-étudiant pour financer ta cabane. J'ai dit, mais c'est pas pour financer des études, je suis quelqu'un de très carré. Il me dit, bah justement, si, c'est comme si c'était des études, puisque là, tu vas travailler. Donc, et de là, je fais un papier, pas un faux papier, un vrai papier, sauf que je ne vais pas vraiment faire mon master. Et je fais financer par un prêt étudiant ma cabane. Donc, il me finance 30 000, j'ai eu besoin que de 15 000. D'ailleurs, mes parents m'ont pris les autres 15 000 dans la foulée, vu qu'ils étaient là disponibles. Et j'ai démarré, si tu veux, j'ai démarré mon histoire comme ça, dans la cabane du BHV, plein mois d'août.
2017.
Plein mois d'août 2017, et ça démarre comme ça, et j'ai mon petit réseau sur Insta, j'ai 2-3 000 abonnés, les gens viennent, goûtent, reviennent.
Ça s'appelle déjà Omer. Hein.
Omer Lobster. Ouais,
Omer Lobster.
Ça s'appelle Omer depuis le premier jour. Et au bout d'un mois, j'ai un papier incognito, enfin une journaliste incognito qui vient, et à l'époque, Combini, les articles de presse que faisait Combini étaient très 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 impactants. Je dis pas qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, mais j'ai jamais eu un autre article qui m'a impacté autant que celui-là dans ma vie. En gros, ça sort un vendredi. On a testé Omer, le king du lobster roll à Paris. Et à l'époque, j'avais que deux sandwichs au menu. C'est le lobster roll classique, maillot ciboulette et Connecticut, beurre citronné, mélange d'herbes. Et ils me nomment ça le lendemain. J'ai plus de 400 personnes qui font la queue. On a l'impression qu'il y a une émeute dans la cour.
En plus, c'est petite cette cour.
C'est tout petit. Et il faut savoir que je me suis fait beaucoup d'ennemis parce que tous les gens de la cour ne pouvaient plus me voir. Les gens venaient pour moi.
Donc,
c'était fou. Et y a eu un engouement. Donc ça, c'était en fin septembre. C'est le 30 septembre. Vendredi 30 septembre 2017. Et de là, la machine est lancée. Ensuite, on a eu très très bons qui sont venus alors qu'on ne les a même pas sollicités. Bon, la machine est lancée. Et trois mois et demi après, quatre mois après, j'ai l'opportunité de signer une boutique rue Rambuteau en location-gérance parce que je n'ai pas les moyens de l'acheter. J'ai trois mois d'activité, les banques ne me financent pas, je n'ai pas du tout les fonds nécessaires. Pour te dire, une boutique comme ça vaut 500 000 euros. Il faut les sortir, les 500 000, c'est un demi-million d'euros quand même.
Tu étais tout jeune, tu avais la vingtaine.
Trois mois d'activité, j'ai en 2017, j'ai 22 ans.
Oui, trois mois de d'activité dans une cabane.
Voilà. J'ai 22 ans et...
C'est toi qui allais la chercher, cette opportunité, ou on te l'a proposé?
Alors, cette boutique, moi, je l'ai visitée avant le BHV. Parce que moi, il faut savoir une chose, que j'étais sadique. J'allais visiter des boutiques comme si j'allais les acheter. Parce que je veux voir les quartiers, je veux comprendre. J'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, j'avais visité cette boutique trois fois. Elle était mise en vente depuis un an et demi. Elle n'a pas été vendue. Et cette boutique, je la connaissais, je la voyais, elle était inhabitée, inoccupée, pendant un an et demi, en plein de la rue Rambuteau. Et donc au final, je vais les voir, j'ai écouté, elle m'intéresse, et on la prend en location-gérance. Donc un très gros loyer, mais même moins gros que ce que je payais au BHV. Donc j'y allais, j'y vais. Et de là, avec la petite trésorerie que j'avais mis de côté en 4 mois, ça m'a permis de faire mes travaux. J'ai tout payé seul, puisque la banque ne me finançait pas. Et je démarre, 1er janvier, 2 janvier, moins 4000 euros sur le compte.
2018.
1er janvier 2018, ouais. Moins 4000 euros sur le compte. J'ai mis tapis dans cette location-gérance. Il faut savoir une chose, avant ça, j'ai signé un lundi début décembre, cette boutique rue Rambuteau. Le mercredi, je reçois une lettre recommandée, comme quoi les gestionnaires de la cour me mettent dehors. Parce que ils pensent qu'en me mettant dehors, ils vont récupérer ma clientèle parce que les autres cabanes ne fonctionnent pas à cause de moi. Je te jure que c'est vrai. Et de là, je dis, c'est un cadeau du bon Dieu. Bon débarras. Et je vais... Imagine, je n'avais pas signé Rambuteau. Je me serais sûrement retrouvé dans la merde. Et un peu en galère. Donc pour moi, c'est un peu la bonne étoile, mais c'est en allant chercher que la bonne étoile apparaît. Et je démarre rue Rambuteau, moins 4000 euros sur le compte, et je comprends très vite que j'ai pas le droit à l'erreur, que si je travaille pas dès le premier mois, je suis dans la merde, vraiment. Et ça a pas manqué, ça a explosé. C'était génial, ce début. Je faisais tous les jours 7 sur 7 ouverture fermeture, j'étais avec mes deux cuisiniers et Adèle, donc, qui à l'époque était entre les cours et extra, et qui ensuite a fait son stage de fin d'année chez moi. Mais c'était extraordinaire. Et de là, je vais te la faire très brève, mais ça démarre. 2 mois après, je signe la première collaboration entre un palace parisien et un concept de street food.
Avec
le Royal Monceau, ouais. En mars, on signe la collab. Faut savoir une chose, qu'à ce moment-là, au mois de mars 2018, j'ai des gens qui étaient dans ma classe à Vatel, qui sont encore à Vatel, qui sont en stage au Royal Monceau. Et moi, j'ai mon concept qui ouvre au Royal Monceau. Le parallèle est dingue. Au mois de mai, je suis sélectionné par le Down East Magazine, qui est l'équivalent du Figaro en France, magazine de la côte est des États-Unis, dans les 10 meilleurs lobster rolls du monde. J'ai une ribambelle d'articles de presse. Incroyable. Je passe à la télé. Et c'est là où, le 7 juillet 2018, je me retrouve à Portland, dans le Maine, faire plus de 650 lobster rolls. Et remporter les championnats du monde de lobster roll. Et là, ça a été... Avant ça, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de chefs étoilés qui sont venus manger chez moi, dont Eric Fréchon, qui m'a un petit peu coaché pour rééquilibrer la recette. Et après ça, c'était une histoire de fou. Après ça, ça s'est jamais arrêté. Mais là, je t'en parle, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. C'était fou. Je me retrouve... Franchement, j'ai... tous les gens qu'on voit dans Top Chef, ils sont venus manger. Beaucoup de grands entrepreneurs... Des fonds d'investissement qui viennent me voir, il faut absolument développer des demandes de franchise dans tous les sens. Après, je reste...
Tu gardes la tête froide ?
Il faut savoir une chose, c'est que je ne sauve pas des vies, je fais des sandwichs. Champion du monde, pas champion du monde. Et c'est là où je reste focus, c'est là où je me dis, c'est sûrement pas là qu'il faut prendre la grosse tête et qu'il faut se dire, c'est bon, je suis invincible, tout ce que je vais faire, ça va se transformer en or. Et donc, je reste focus, j'ouvre au Carlton à Cannes. Première année au Carlton à Cannes, plus de 68% des ventes F&B sur la plage sont le lobster roll. Il faut savoir que le Carlton est connu pour la vente de son club sandwich sur la plage.
Tu l'as doublé.
C'est-à-dire, quand tu ouvres le rapport, 68% des ventes sont le lobster roll au Mer Lobster sur la plage du Carlton. C'est extraordinaire. Donc, ce qui est en train de se passer est fou. C'est en train de prendre une autre dimension qui est limite internationale. Et je décide d'ouvrir un deuxième restaurant à Saint-Germain-des-Prés. Et là, je commence à me dire, bon, allez, faut dupliquer maintenant, faut s'organiser. Je ne veux pas rester que dans une seule affaire. Et j'ai toujours rêvé. Moi, mon objectif de vie, quand j'ai démarré au Mer, c'était d'avoir un restaurant dans le Marais et un restaurant à Saint-Germain. Rien d'autre. Donc, j'ai le titre de champion du monde.
C'était pas le groupe au départ.
Non.
Enfin, c'était...
Non. Au moment où je gagne le championnat du monde, je réalise que j'ai une étiquette lobster roll sur la tête et qu'il faut que je commence à bosser un autre concept. Ou faire d'autres recettes pour montrer que je ne sais pas que faire des sandwichs au homard, que je suis bon dans ce que je fais de manière générale. Et j'ouvre ce restaurant à Saint-Germain, qui est très bien placé, Carrefour de l'Odéon, septembre 2019. Pour ceux qui ne se rappellent pas de cette période de merde, je me permets de le dire, d'abord les grèves en octobre, où toute la rive gauche est fermée. Donc j'ouvre un restaurant à Odéon, et toute la rive gauche est inaccessible. C'est une catastrophe. Fin novembre, les gilets jaunes. Cata. Début du Covid et des meurtres de partout. Tout le monde, on ne parle que des morts. C'est un climat qui
est... Anxiogène.
Ah non, mais à mourir. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où j'ai fait mon gros voyage. J'ai besoin de couper. Janvier 2019, je suis parti un mois. C'était mes premières grandes vacances depuis que j'avais lancé Omer. Où je suis parti un mois en Californie, me vider la tête, prendre plein d'autres idées. Et tombe le Covid. Et là, le Covid, pour moi, attention, à titre perso comme à titre pro, le Covid a été une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie. Pour plein de raisons. Déjà, à titre perso, je n'avais plus de travail. J'ai retrouvé des valeurs de famille que je n'ai pas ressenties depuis que j'étais jeune. J'étais chez mes parents. On mangeait ensemble, à foison, mais ouais, ensemble. On se mettait à faire des jeux tellement on se mettait à regarder des séries ensemble, des films, on était ensemble. Et on sortait pas, on avait tous peur de... Donc on était très soudés. Je me rappelle, il y avait l'époque du film sur Netflix, le film turc, là, avec l'handicapé, avec sa fille, et la peine de mort. Je sais pas si tu l'as vu pendant le confinement. Un truc, tout le monde pleurait. C'est devenu une mode de voir ce film. Mais des souvenirs uniques. J'ai pris 5 kilos en une semaine parce que je fais du sport tous les jours. Durant le lendemain, là, j'arrête le sport et je me mets à manger 3 ou 4 fois par jour. Parce qu'on se mettait tous à essayer à faire à manger. Ma mère, elle faisait de la pâtisserie à tout va et on mangeait des pâtes et ça et ci. Donc, c'était incroyable ce qui se passait. Et au bout d'une semaine, je monte sur la balance. Je te jure que c'est ça qui a déclenché la suite. Au bout d'une semaine, je monte sur la balance. Je vois que j'ai pris 5 kilos. Je mets un short de sport. Maintenant, moi, je n'osais pas ouvrir la fenêtre de peur que le virus se balade dans l'air et rentre dans ma chambre. Pour te dire la psychose. Le président a annoncé lockdown. À l'instant où il a annoncé à 19h, j'ai appelé mes équipes, Marais et Saint-Germain. J'ai dit, vous jetez tout. Vous voulez prendre pour la maison, prenez. Vous jetez tout, vous me fermez les restaurants. À l'instantané. J'avais trop peur. Moi, j'entendais que des morts. Ouais. Moi, je me dis, on respire dans la rue, on meurt. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, faut s'en rappeler de cette période, parce qu'aujourd'hui, on en parle à la rigolade du Covid, mais faut se rappeler les médias, ils disaient 350 morts et 2000 morts, et papa, c'est violent. Et je me rappelle, je me pèse, je mets un short de sport, j'étais à Vincennes, et je me dis, je vais courir, il n'y a personne dans Paris, je vais courir jusqu'à Bastille et je vais revenir. Et en allant, je passe par Porte de Vincennes, et je vois 70 personnes. Un attroupement de 70 personnes, de livreurs Deliveroo, devant un sushi. Et là, pas un sushi shop, pas un sushi de quartier, un petit truc. Et là, je m'arrête de courir complètement. Je suis à Porte de Vincennes, donc je suis pas très loin, j'ai dû faire 1 ou 2 kilomètres. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Deliveroo. J'ai pas compris. Je dis, mais on n'a pas le droit, c'est confinement. Si, Deliveroo, on a le droit. Je suis reparti en arrière. Je te jure.
T'as rappelé tes équipes?
Pas du tout. J'appelle Adèle, ma directrice, qui est la seule qui m'a soutenu, même à ce moment-là. Je lui dis, je viens te chercher demain, je te mets dans un resto, je vais dans un autre, on fait la mise en place, on ouvre le soir, on voit. Ok, vas-y, mais t'as pas peur? Je dis, on met les masques, on met ce que tu veux, je m'en fiche. Je la dépose dans le Marais, je vais à Saint-Germain, on fait notre mise en place, on allume Deliveroo. C'est tellement violent que je suis obligé d'éteindre la tablette. Parce que t'allumes Deliveroo, il y a un sushi, un kebab.
Et toi?
Et nous. Et je me rappelle le lendemain, j'appelle Pierre Sang, le chef, qui est un ami. Il me dit, regarde, il a fait plus de 1000 commandes.
Waouh.
Je dis, c'est quoi ça? C'est sur ta semaine? Il me dit, non, c'est aujourd'hui. Je rappelle toute mon équipe. Je dis, revenez bosser. Non, tout le monde avait peur. Je dis, je vous paye comme avant, vous travaillez 50% en moins. La moitié de vos heures. Tout le monde est revenu le lendemain. Et ça a été... Ce qu'on a vécu était extraordinaire parce qu'on faisait entre 500 et 700 clients par jour, par restaurant. J'en avais 2. Imagine la pression. On allume la tablette Deliveroo, il y a 70 précommandes. À ce moment-là, tu as Emmanuel Jarry, c'est meilleur quand c'est bon, qui décide de m'appeler, qui me dit « J'aimerais commander une livraison parce que j'ai vu que tu as réouvert. » Je lui livre en personne. La vidéo a fait 1 million de vues. Le monde entier veut commander ce qu'elle a commandé, le lobster roll au safran. Alors que je ne sais même pas pourquoi je vais faire une recette au safran.
Qui n'existait même pas dans le...
Elle m'a dit, je veux une sauce différente. Ben, j'ai fait un roll au safran. Je me dis, j'avais du safran. Quelle connerie que j'ai fait. Mais... Et de là, il y a le magazine Elle qui me contacte et qui me dit, ça serait bien que tu fasses une recette pour les gens qui ne peuvent pas sortir avec des produits de la maison. Et de là, je fais une recette de tuna melt. 2 millions de vues en 24 heures. Et je mets le tuna melt au menu. Et alors là, c'est la guerre. Et donc, je connais ça tout le long du Covid. Premier confinement, deuxième confinement. C'était extraordinaire. Et de là, c'est là où ma vie a pris complètement un tournant. Parce que justement, tout ce chiffre, tout ce qu'on a créé s'est mis en place là. J'ai eu la chance de m'associer avec mon fournisseur, qui est la Maison Nordique. Ouais, à ce moment-là. Qui a beaucoup d'expérience et qui... a été un peu comme un père et m'a vraiment drivé pour m'organiser comme un McDonald's. Ils ont contribué au développement de Sushi Shop. Ils savent un peu comment se gère un développement. Et je me suis associé avec eux pour entamer un développement. Et si tu veux, à ce moment-là, en plein Covid, deuxième confinement, on a décidé d'ouvrir une centrale. On produit tout en interne. Et on est indépendant à 2000%. On produit tout.
Des sauces au homard,
pain, cuisson de homard, packaging. On est indépendant. Et la clé a été cette indépendance.
La clé de ton succès ?
Clé du développement.
Du développement.
A été cette création d'indépendance qui nous a permis après, on ouvre sur le port de Saint-Tropez. Mais pareil, cette ouverture sur le port de Saint-Tropez, elle se fait. Je suis dans un restaurant clandestin pendant le Covid. On me dit, il y a des gens qui sont un peu dans le business qui vont manger là-bas. Je vais, papa, une rencontre, ça parle. Je dis, putain, j'aimerais être à Saint-Tropez. Ah, moi, j'ai une boutique qui se libère. On a tapé dans la main à la fin du repas. J'ai signé une boutique à Saint-Tropez. Ça s'est fait comme ça. Marseille, collab à Saint-Barth avec le chef Arnaud Faye au Christopher Hotel. J'ouvre dans le 16e arrondissement. Je signe avec Beaugrenelle. J'ouvre dans le 15e. J'ouvre dans le 9e rue des Martyrs. Je signe Vincennes. Et de là, alors, faut savoir une chose. Je fais un petit back to the future. C'est à ce moment-là, pendant le Covid, où j'ai beaucoup de temps, où je suis chez moi, que je commence à bosser sur Jeannette. Faire des nouveaux sandwichs, faire des nouveaux concepts, et que je lance, quand j'ai réouvert, je lance une deuxième tablette Deliveroo, un peu style Dark Kitchen, où à travers les restaurants en mer, je fais 2-3 recettes. Bœuf effiloché, pastrami.
Déjà sous l'autre marque.
Et ça a démarré comme ça, et ça a plu. Et j'ai vu qu'il y avait un engouement, qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est de là que je suis parti sur la deuxième marque. Et donc de 2020 à fin 2022, j'ai bossé sur Jeannette. Et j'ai lancé Jeannette fin 2022.
Et à chaque fois, en tout cas, tu ouvres tes restaurants
début 2022.
Un peu jumeaux. Où tu as d'un côté, d'un côté Homer,
pour moi, Jeannette. Pour moi, Jeannette, fallait le mettre à côté d'Homer, ouais. Parce que c'est une offre complémentaire. Tous les gens qui viennent pas chez Homer pourront aller chez Jeannette et vice versa. Donc pour moi, c'était logique de le mettre à côté. Je voulais absolument ouvrir rue Rambuteau. Et donc, faut savoir une chose, au début, Jeannette était un échec. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens venaient chez Jeannette, c'est bon, je préfère le lobster. Pas comparer l'incomparable, on ne compare pas du pastrami et du homard. C'est incomparable, c'est pas le même sandwich, c'est pas le même pain, c'est pas la même sauce. C'est deux concepts différents, mais dans la tête des gens, j'ai de l'étiquette du lobster roll. Et pendant un an, ça m'a pris la tête parce que j'arrivais pas à faire ce que j'ai réussi à faire de Homer avec Jeannette. Et ça m'a rendu malade. Plein de complications, et jusqu'à un moment, je pète un câble. Je pars à New York, j'ai besoin de partir à New York, j'ai besoin de me ressourcer. C'est un peu la ville qui me donne de l'énergie, on va dire. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de reprendre confiance en moi et j'ai besoin de retravailler mon concept. Je repars à New York et je fais peut-être 15 délits en 3 jours.
Ah, tu goûtes.
Ah, je me fais même vomir pour pouvoir goûter les autres. Tu sais, quand je te dis, j'ai un plan A, je suis là pour goûter les 15 délits, pour comprendre ce qu'ils font. Pourquoi eux, ils marchaient pas moi ? Mon pastrami est excellent. Ok, je le fais moi-même, je le fais dans la tradition. Tout le monde n'aime pas le pastrami. Et au début, je tilte pas. Après, je me dis, en vrai, tout le monde n'aime pas le pastrami. C'est pour ça que les délits fonctionnent, parce que dans un délit, tu peux manger un tuna melt. Dans un délit, tu peux manger ton sandwich à la dinde. Dans un délit, tu peux manger saumon fumé. Dans un délit, tu peux manger ton hot dog. Dans un délit, tu peux... Ah ! Et de là, je rentre et je décide de... Je vais au labo et je vais faire une dinde fumée maison. Et je vais faire une saucisse avec mes restes de pastrami et mes restes de dinde. Et je vais faire le bœuf effiloché. Et je vais faire comme ça. Et je vais faire un tuna melt. Et je vais faire comme ça. Et j'ai lancé mon nouveau menu en janvier 2023. Et depuis janvier 2023, Jeannette n'a plus jamais été le concept Jeannette d'avant. Et aujourd'hui, ma peur aujourd'hui, c'est que des gens me disent on préfère Jeannette que Homer. C'est pour te dire tellement c'est violent l'engouement qu'il y a envers Jeannette. Et j'en ai ouvert un deuxième dans le 16e entre temps, à côté de Homer Lobster du 16e. Et pour te dire, je fais les mêmes chiffres que Homer Rambuteau, qui est ma première boutique, qui est la maison mère. Donc c'est fou. C'est fou ce que. Mais c'est du travail, c'est de la remise en question, c'est tout ça.
Encore une fois, pour revenir peut-être un peu au début, c'est réussir à sortir pour trouver un peu la clé, l'inspiration. Et prendre du recul qui finalement te fait réaliser ces choses-là, enfin, ce qui n'allait pas et craquer le truc.
Si j'avais pas fait ce voyage à New York, j'aurais pas pu. En fait, j'avais mes idées. J'ai beaucoup, beaucoup de livres que j'ai feuilletés, que j'ai cherché à me renseigner, les recettes, les réseaux sociaux. Mais au bout d'un moment, c'est bon, faut goûter. Au bout d'un moment, faut vivre le truc. L'énergie, tu peux pas la ressentir à travers les réseaux. Tu
vois, c'était pas tant les recettes en plus. Enfin, c'était pas tant la recette. Non, c'était parce que la clé, elle était ailleurs.
Ouais, après, tu sais, si tu habitues ton palais à manger les bonnes choses, tu vas savoir qu'une dinde, ça peut être très vite sec. Donc, à toi de faire la meilleure dinde du monde pour qu'elle soit juteuse. Tu veux un tounamel, tu prends une qualité thon, moi je prends de la ventrèche de thon. Tout ça, c'est parce que c'est mon sens du détail, du produit qualitatif. Mais aux États-Unis, ils se cassent pas la tête. Un tounamel, c'est du thon en miettes, de la mayonnaise, hop, cheddar et pain. Mais c'est bon.
C'est ça ton goal de faire les meilleurs sandwichs dans leur catégorie ?
J'aimerais bien. C'est ce que j'essaye de faire. Après, il y a toujours meilleur et les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais on va dire que j'essaye d'élaborer de ma vision à moi et à ma manière les sandwichs classiques qu'on peut retrouver partout, mais en les sublimant. Je veux qu'on puisse atteindre un niveau gastronomique en sandwich.
J'allais te demander, ça te vient de tes expériences dans les restaurants
de vouloir l'excellence? Pour moi, c'est une golden bite. C'est quand tu croques dans le sandwich, quand tu le coupes en deux et que tu croques, t'es direct, tout est réfléchi. T'as l'acidité, t'as le croquant, t'as le fondant, t'as le gourmand, t'as la rondeur, t'as cet équilibre. Et un sandwich, c'est un plat à part entière. C'est-à-dire, c'est pas que le casse-croûte de la boulangerie, sans dénigrer les boulangeries, parce que t'as des boulangeries qui font des sandwichs extraordinaires. Mais aujourd'hui, le sandwich, c'est beaucoup plus que ça. Moi, pour moi, un sandwich, je peux pas mettre 6 mois pour faire une recette de sandwich. Parce que j'ai pas le bon équilibre, j'ai pas ce que je veux, j'ai pas ce qui se crée dans ma tête pour avoir, voilà, il faut que t'aies des mini-frissons, faut que t'aies un... Tu manges un Quand tu viens manger un sandwich chez moi, c'est pas pour casser la croûte. Tu viens manger un sandwich chez moi parce que tu viens de faire un kiff. Et c'est ce que je veux garder, surtout, c'est pas devenir quelque chose de banal. Donc... Bah ouais, je suis un peu plus cher que la moyenne, c'est normal, mes produits sont plus chers que la moyenne. Mais par contre, tu vas être sur un équilibre, tu vas être sur... quand tu vas croquer dans mon club sandwich, tu vas dire, c'est ce qu'on attend d'un club sandwich, c'est ce que t'as en souvenir, que peut-être c'est ce qu'on n'a jamais mangé, mais c'est ce que tu attends d'un club sandwich. Quand tu vas croquer dans un lobster roll, après, bah, y en a qui vont dire, ouais, je veux plus d'homard, moi je veux des petits morceaux, moi j'aimerais pas de beurre, moi j'ai... Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais... De manière générale, j'essaye de faire en sorte que tu croques dans ce que tu avais en tête.
C'est un vrai art, finalement.
On essaye, c'est pas facile, c'est du boulot. Mais c'est de la cuisine, à part entière.
Pour revenir à tes débuts, quand tu avais cette idée de resto de lobster roll, comment c'était perçu? Parce que la mode de la street food n'était pas encore développée à Paris, notamment. Enfin, c'était vraiment les tout débuts et il y avait une amalgame un peu entre street food, fast food, et tu as été aussi un précurseur là-dessus pour donner ces lettres de noblesse à cette discipline. Est-ce que tu disais dans ton école, je pense qu'ils avaient tous en tête un chemin tracé, pas très proche de l'entrepreneuriat, mais peut-être plus dans une restauration plus traditionnelle. Est-ce que les chefs ils te comprenaient? Est-ce que tes camarades, voilà.
Bah, écoute, on avait une façon de me parler qui n'était pas dénigrante, mais je vais te le prononcer de la même façon, mais on me disait, ah, tu vas faire des sandwichs. Voilà. Et ouais. Ouais, je veux faire des sandwichs. Ouais. Parce que quand tu vas dans un palace, tu prends un club sandwich, c'est pas ce que je sache, c'est pas une entrecôte, c'est un sandwich. Donc ouais, même dans les endroits les plus luxueux, t'as des sandwichs. Sauf que moi, je veux faire sandwich au homard, le sandwich le plus luxueux que t'aies jamais goûté de ta life. Et donc c'était ça mon ambition, ma vision. Alors au début, je voulais pas le faire en street food. Je voulais le faire en restaurant. Et quand j'ai compris qu'un restaurant ça coûte cher, quand j'ai compris que c'est du staff, quand j'ai compris que c'est des travaux, j'ai dit ben je vais le faire en street food. Je vais le faire en takeaway. T'as un petit peu où tu 3 tables où tu peux manger sur place, 20 places. Et tu veux que je te dise une chose, si j'avais ouvert plus grand, je ne pense pas que ça aurait marché de la même façon. Et ça a été, la street food était, ben, encore aujourd'hui en France, beaucoup de gens confondent street food et fast food. Et à cette époque-là, street food n'était même pas quelque chose qui était dans les mœurs. Et alors que dans les pays anglo-saxons, ben, tu vas à Londres, t'as des food markets avec des concepts de street food de partout. Aux États-Unis, à New York, t'en as partout. Après, fast food va plus être vu comme les grandes chaînes américaines, les trucs très processés, les trucs pas forcément quali. Après, attention, moi, je suis un aficionados de McDo, hein, Donc je dis pas que c'est pas bien. Moi je peux manger McDo toutes les semaines.
C'est un certain goût.
C'est un certain goût, mais bon voilà, chacun ses goûts. Il y en a, ils vont préférer Burger King, d'autres. Mais tu vois par exemple Shake Shack, je vais pas aimer. Mais ce sont ces grosses chaînes assez grasses et street food, on va être dans la cuisine de rue, un peu plus élaborée.
Premium.
Avec des produits frais, avec donc nous. Moi, j'ai cherché à me structurer avec des process de fast-food en y faisant une culture street-food, en y proposant tout ce concept.
Et cette structuration, elle est venue au bout de 2-3 ans, quand t'as commencé à réfléchir en tant que groupe et.
Alors, dès le premier jour, je me suis structuré comme un groupe. D'accord. Dès le premier jour, dans les process qu'on avait, dans la mise en place qu'on avait, j'ai cherché à les faire pour que ça soit un modèle scalable et duplicable. Donc ça a toujours été, j'ai toujours essayé de penser de cette façon-là où je peux en ouvrir un deuxième, je peux en ouvrir un troisième. Voilà comment ça s'est fait.
C'est quoi l'ingrédient secret de ta réussite ?
Beaucoup de gens vont penser que c'est le homard. Pas du tout. Alors déjà, il y a le pain. Le pain brioché, on ne se rend pas compte, mais c'est quand on mange un sandwich, on mange quelque chose dans du pain. Donc c'est 50% du sandwich. Et beaucoup de gens négligent cette partie, enfin négligeaient, parce qu'aujourd'hui on y fait beaucoup plus attention. Mais il y a 8 ans ou 9 ans, quand je bossais sur ce concept-là, beaucoup de gens négligeaient cet aspect du pain, et tout le monde avait plus ou moins le même, et qui, de la façon comment il soit cuit, j'avais vraiment, pour moi c'était important que l'expérience se fasse de cette façon-là, qu'on croque sur la mie toastée pour avoir un aspect gourmand et légèrement gras, et la mie à l'intérieur est très fondante, qui s'est mise en limite boule de pâte avec la condensation de la vapeur. J'ai vraiment cherché ça. Donc le pain a été une des clés, et l'autre est que je pense que quand les gens venaient au début d'Homer, on sentait que je mettais mes tripes, mais je te jure que c'est vrai. Il y a des gens, des fois, des vrais anciens clients qui me disent « Tu te rappelles quand t'étais au BHG ou quand t'étais à Rambuteau au tout début et qu'il se passait ça, ça, ça ?» Bien sûr, je m'en rappelle. Je peux même te dire tous mes clients habitués depuis le début, je pourrais pas te dire leur nom, mais je les reconnaîtrais. Et aujourd'hui, bah, moi, quand je les vois, comme je suis beaucoup moins en service, à chaque fois que je les vois, que je vois des vrais habitués qui me suivent depuis 7 ans et que je suis là, je les invite. Parce que c'est des gens qui m'ont toujours suivi et qui ont toujours eu ce truc à me suivre. Et je pense que c'est le tout, que la recette soit équilibrée, bonne, et que aussi j'ai mis mon âme, j'ai fait des sacrifices dans ma vie parce que j'ai consacré ma vie à ça, ma passion. C'est-à-dire, moi quand on parle de bouffe, on parle la même langue que moi, donc quelqu'un qui va venir manger chez moi, pour moi c'est pas quelqu'un. Pour te dire, j'ai pas de toilettes dans mes établissements. Bon, il y a des gens, ils viennent, ils disent bonjour, où sont les toilettes ? On va passer commande, où sont les toilettes ? J'ai pas de toilettes. Ah bon, on peut pas manger s'il y a pas de toilettes. Alors ça ne m'intéresse pas de parler avec vous. Parce que vous venez pas, en vrai, vous vous êtes pas déplacé pour découvrir quelque chose. Je te jure que c'est vrai. Donc pour moi, les gens qui venaient manger chez moi, c'est les gens qui venaient se faire un kiff. Donc ils venaient parler la même langue que moi. Parce que c'est exactement ce que j'aurais fait à leur place, venir me faire un kiff. Donc ça a été, si tu veux, cet assemblage de choses. Et après, ben, y a eu les articles de presse, après il y a eu le titre de championnat du monde a beaucoup aidé aussi. Et les nouvelles recettes, et la remise en question, et toujours être à carreau sur la qualité des produits. J'ai la même qualité de produit depuis le premier jour.
Et ça, tu fais hyper attention à la constance.
Alors, bah, d'ailleurs, il y a pendant un an et demi, les produits ont flambé. J'ai préféré écraser mes marges, mais garder mes produits, plutôt que prendre du produit plus cheap, et garder mes prix d'avant. C'est pas grave, ceux qui veulent pas payer 2 euros en plus, alors que j'écrase vraiment mes marges, c'est-à-dire que je suis prêt à gagner 0 pendant un an et demi, mais pour pas trop déchirer niveau tarif, il y en a qui trouvent ça trop cher. Désolé, ok, mais en tout cas, je peux assumer, je ne fais pas de la merde.
Et comment tu te positionnes par rapport à toutes les ouvertures d'adresses de sandwich ? Enfin, c'est vrai que entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui, bah, la street food a eu un engouement
énorme.
Il y a beaucoup d'adresses qui se sont lancées. Qu'est-ce qui te distingue encore ?
La qualité des produits, la remise en question. Je pense que les gens qui viennent chez nous retrouvent toujours ce truc. On a envie de se faire un homer à un tel moment. Par exemple, ça peut être début du mois, on a reçu notre salaire. Ça va être un plaisir. Tout le monde ne peut pas se permettre de manger du homard. Donc, en fait, Tu sais, ce concept, il a deux visions. Soit c'est de la street food très haut de gamme, soit c'est un produit très noble et très cher, très accessible. Et donc, ce qui a distingué un peu Omer des autres, je pense, c'est déjà l'attention qu'on va porter aux clients, c'est cette remise en question perpétuelle. C'est ce service, c'est tout ça.
Continue.
C'est tout ça, je pense, qui a fait que Omer est encore là aujourd'hui, continue de se développer, et on fait parler de nous de plus en plus. Et on est aujourd'hui, quand on parle d'Omer, on parle de gage de qualité. On nous met dans la catégorie un peu chère, hein. C'est normal, je fais des sandwichs au homard.
Ouais.
Mais c'est du homard.
Et tu l'assumes. Enfin,
ouais, c'est pas un sandwich ton crudité. Ouais. Mon ton crudité, même mon sandwich, mon ton à melt, il a un tout petit peu plus de 10 euros, 11 euros. C'est de la ventrèche de ton. Je mets au défi quiconque de faire un sandwich à la ventrèche de ton à ce prix-là. Si on connaît les prix, si on connaît le marché. Donc, si tu veux, j'essaye de toujours rester dans la qualité la plus haute des produits et aussi parce que un concept de street food, ce n'est pas que de la food. C'est aussi l'expérience, c'est aussi comment tu vas être accueilli. Parce que moi, quand je vais au restaurant, c'est 50-50. 50% si je mange bien, 50% le service. Je pense que si tu manges très bien, mais tu as un service de merde, tu ne retourneras pas.
Retourner.
Par contre, si tu manges moyennement bien, mais tu as un service extraordinaire, je peux te jurer que tu y retournes. Et moi, mon but, c'est d'essayer de faire plaisir aux gens par la food. Mais on va dire que la food, aujourd'hui, on la contrôle, vu qu'on produit 90% de nos produits. Mais par le service, par le conseil, par l'accompagnement, par l'histoire qu'on cherche à raconter. Parce qu'en venant manger chez nous, on cherche à te faire vivre ce que moi j'ai vécu. C'est le but de mon concept. Et comme chez Jeannette, je cherche à te faire vivre ce que j'ai vécu quand j'ai mangé dans mon premier délicatessen à New York. Ce que tu ressens de manger au comptoir, que t'as le cuisinier qui pam pam pam, il te fait le sandwich devant toi, il te pose l'assiette, c'est limite, il te la jette. Et il y en a partout. Et c'est ça. C'est ça un délit. Et tout le monde est collé, tout le monde se mange à côté les uns les autres et tout le monde échange, partage. Tu viens un samedi après-midi, tu vois la queue et tu vois les gens qui sont serrés et « Ah, vous avez pris quoi ? Oh là, je veux comme lui !» Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça.
Ouais, comme tu disais tout à l'heure, t'as mis ton âme dedans et je pense que même si t'es... et tu restes beaucoup physiquement présent, mais tu peux pas te dupliquer
bien sûr,
partout.
Bien sûr.
Il y a quand même un truc de toi très fort dans tes adresses.
Bah le but, c'est qu'on ressente ma présence et qu'on ressente ma patte à travers mes différentes adresses,
ouais.
Même quand je suis pas là. J'y suis, franchement, je passe dans tous les restos tout le temps. Après, je suis beaucoup plus concentré dans le Marais. Ah ouais, ouais.
Ouais.
Marseille moins et Saint-Tropez en pleine saison, ouais, j'y suis. Mais je suis beaucoup concentré dans le Marais, dans ceux du 16e, puisque c'est là où il y a Omer et Jeannette, les deux binômes. Mais j'ai la chance d'avoir des équipes qui ont envie, qui sont patients, qui écoutent, parce qu'on leur apprend, c'est du management, c'est du training et c'est de la remise en question et ça fait partie du job autant que les cuisiniers doivent savoir faire les sandwichs. Voilà.
Tu es à la tête de 12 restaurants aujourd'hui, donc Omer, Jeannette, bientôt un café. À Paris, Marseille, Saint-Tropez, Dubaï, sans business partner à part Dubaï où c'est une franchise. Comment t'as structuré ta boîte?
Ça a été un mal de tête. Voilà, je me dis je suis à la dette, c'est un mal de tête. Comment j'ai structuré ma boîte? Par logique. En fait, c'est d'abord il fallait que je sois producteur de mes produits, ensuite dupliquer, former. Faire appliquer ce qu'on met en place. Et ça a été très vite, hein, parce qu'on a ouvert 10 restaurants en 2 ans. Il y en a qui vont dire c'est rien. Il faut les assumer, les 10 restaurants seuls en 2 ans. Et mettre du staff. Et il faut savoir une chose, à chaque ouverture, à un mois de l'ouverture, on n'a pas de personnel. Et donc à chaque ouverture, on se dit mais comment on va faire pour ouvrir le restaurant? Et à chaque ouverture, on assure l'ouverture. Donc c'est pour te dire... Je te répète tout le temps, je t'ai répété 3 ou 4 fois la même chose. J'ai un plan A. C'est-à-dire, si on a signé cette boutique, c'est qu'on va l'ouvrir. Et on va l'ouvrir comme on a dit. Et donc, on va pas se laisser abattre par ces problèmes, par ces points négatifs. Moi, quand j'étais à l'école et qu'on avait un contrôle et que je connaissais ou je connaissais pas, je me disais que quoi qu'il se passe, la copie double, qui est blanche actuellement, elle va être remplie. Qu'il y ait des conneries ou pas des conneries dedans, c'est une chose, mais elle va être remplie. Et ben, moi, c'est la même chose. Je me dis. Qu'on rate, parce que on peut pas tout réussir, moi j'en ai eu des ratés. Mais au moins je vais l'ouvrir et je vais faire ce que j'avais en tête. Et donc on s'y tient. Et ça s'est fait comme ça. Une fois que j'en ai ouvert un, j'ai dit, il y a l'opportunité, je vais aller là-bas, on va y aller, on fonce. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est l'opportunité qui s'est... Il y a l'opportunité, je la saisis, je rentre, mais je rentre de pieds joints dedans. Et ça s'est fait comme ça.
T'es un fonceur.
J'essaye. Après, ben, il y a la réalité qui...
Un fonceur optimiste.
Optimiste. J'essaye de rester très positif. Surtout
ouais,
dans...
Il faut, hein.
Ben, quand tu entreprends... Si tu n'as pas un minimum d'optimisme, ouais. Tu peux vite sombrer. Donc, et même, tu te rends compte quand tu cherches à entreprendre, surtout comme ça, à ce niveau et à ce rythme où tu passes de « j'ai deux restaurants, je suis à la cool, mon problème, c'est qu'il y en a un qui est malade, bon, bah, je vais devoir remplacer. » Là, c'est 72 employés, on va passer à 80 bientôt. C'est pas les mêmes problématiques. C'est... Donc, tu n'as plus... Aujourd'hui, j'ai une vision macroéconomique, si tu veux. Je mets tout en étant focus restaurant par restaurant, problème par problème, client par client. S'il y a un problème sur un client, ça va autant me prendre à cœur qu'il y a 6 ou 7 ans. Voilà. Parce que je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas perdre ce lien que j'ai avec nos clients, avec les gens qui se déplacent. J'ai des gens qui se déplacent du monde entier. C'est incroyable. Et moi, je me dis... Mais des fois, je me pose, je dis, mais c'est des ouf, pourquoi ils viennent manger chez moi ? Vraiment. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tout ce que ça englobe qui a fait. C'est la continuité des choses et ça s'est fait naturellement parce que j'ai été le chercher. Je voulais absolument avoir une boutique dans le 16e, par exemple, parce que j'ai vu que pendant le confinement, 80% des livraisons allaient dans l'Ouest. Donc tu peux aller dans le 16e, tu peux aller dans le 17e, tu peux aller dans le 8e. Je veux le 16e. T'as du résidentiel, t'as de ça. Ça te permet de toucher la Défense, ça te permet de toucher Neuilly, ça te permet de toucher là. Tu touches un petit peu le Valois. Je vais aller dans le 16e. Eh bien, je me suis bagarré pour avoir la boutique que je voulais dans le 16e. Et ça a été ça pour tous les restaurants qu'on a signés.
Tu passes du lobster roll au club sandwich, du club sandwich aux gaufres liégeoises bientôt. Qu'est-ce qui guide tes envies de diversification ? Est-ce que tu réponds à un besoin que tu as identifié, une tendance, ou c'est vraiment... tes envies personnelles,
mon kiff. Je te jure que c'est vrai, ça s'est fait par mon pur plaisir personnel d'abord. Il faut savoir une chose, tout sandwich qui est au menu chez moi est un sandwich que je me suis d'abord fait à la maison.
Et que tu kiffes.
Ouais, que je kiffe, mais que j'ai fait d'abord pour moi. Je me dis, si je dois manger au restaurant, j'aimerais que ça soit comme ça. Après, des fois, je suis parti un peu en banane. Pour le lobster, j'avais mis le double de quantité de homard. Il faut être réaliste, on ne peut pas vendre 40 euros un sandwich. Mais... Tu vois, par exemple, l'histoire du club sandwich, Le Monde nous a nommé meilleur club sandwich il n'y a pas longtemps, en septembre. L'histoire du club sandwich, elle est faite, je te la fais en très brève. Cet été, j'ai fait un tour en Grèce, j'étais dans différents hôtels, et à chaque hôtel où j'allais, je voulais goûter le club sandwich. Et ils étaient tous...
Dégueu.
L'un plus dégueulasse que l'autre.
Ah, mais
trop sec, trop de sauce, mais une catastrophe.
Je suis souvent déçu.
Une catastrophe. Mm. Et j'ai cette frustration du club. Je rentre à Paris... Je me dis, meilleur club du monde, ils sont dans les palaces parisiens. Je fais 3 palaces différents. Bon, j'ai quelque chose à dire, mais bon. Le seul que j'ai trouvé extraordinaire, c'était au Bristol. Pour moi, meilleur club de palace. Puis c'est Eric Fréchon, mais... meilleur club de palace. Et pour moi, je sais pas. Je l'aurais pas fait comme ça. Attention, je suis personne pour dire comment ils l'ont fait. Hein. C'est-à-dire... élu meilleur club de palace, donc je n'ai rien à dire. Ils ont leur titre et même leur club est extraordinaire. Mais je ne l'aurais pas fait comme ça. Et le lendemain du Bristol, j'ai été au Bristol un samedi midi. Le lendemain, c'est un dimanche, je ne suis pas censé travailler. Je suis pris, je crève d'envie de manger le club sandwich de la frustration que j'ai de cet été.
De tes rêves ?
Ouais. De mes souvenirs, de ce que j'avais envie de cet été. En fait, c'est la frustration de cet été qui n'est pas passée. Je vais chez Jeannette. Je me rappelle, donc j'avais lancé les sandwichs à la dinde. Je fais une dinde fumée maison. Donc, ok, pour moi, dans un club, il faut de la bonne mayo, il faut de la tomate, il faut des œufs, il faut de l'as. Ce qui est très important, c'est le mélange salade, vinaigrette, mayonnaise. Une bonne dinde pas trop sèche, du bon pain. Donc, je prends ma brioche et papa, je l'assemble. Au début, je trouve que je mets trop de dinde, j'ai mis 120 grammes, trop de grammes. Je réduis à 100, je réduis à 70, je mets plus d'œufs, je mets plus de ça, je croque dedans. Et là, il se passe comme dans Ratatouille. Tu sais, les trucs derrière, les couleurs. Ben, comme dans Ratatouille, et je me dis, c'est bon, je le mets au menu. Je fais une vidéo, la vidéo a fait 500 000 vues en 24 heures. Et ça devient mon best-seller chez Jeannette. Et Le Monde arrive et fait un article. Et Les Échos viennent et font un article. Et le club, je l'ai mis. par ma frustration. La gaufre de Liège, mon prochain concept qui ouvre là, dans le coffee shop, entre guillemets. J'ai pas encore le nom, c'est pour ça que je donne pas de nom. C'est très simple, c'est une boutique qui s'est libérée en face de Jeannette il y a 2 ans. J'ai eu 2 ans de négociations avec les bailleurs pour trucs, mais en 2 ans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des hot dogs, je vais faire trucs. Et j'ai eu une histoire dans ma vie qui m'a fait aller en Belgique, à Liège, et goûter les gaufres de Bernard Hagenholz, qui sont les meilleures gaufres de Liège du monde. Il fournit la cour royale de Belgique. C'est... En fait, on pense connaître les gaufres, je te jure qu'on ne les connaît pas. Parce qu'une gaufre de Liège, déjà, elle se mange froid. Elle est moelleuse comme une madeleine. C'est un goût d'arôme vanille. T'as les grosses perles de sucre, ça a des extérieurs caramélisés. C'est pas du tout la gaufre qu'on te met dans le gaufrier. Tiens, faut que tu manges chaud, une fois que ça refroidit, ça peut être un frisbee. Il n'y a pas de Nutella, il n'y a pas de sucre glace, il n'y a pas tout ça. C'est une viennoiserie, voilà, c'est un gâteau. Alors là, je suis devenu mais accro à un point. Et pourtant, je ne suis pas très sucré, hein. Mais alors là, ça m'a rendu fou. Et j'ai contacté Bernard Hagenholz pour le faire. Donc après, il m'a dit, pour la recette de la gaufre, 250 000. J'ai la chance d'être entouré de gens qui m'aiment, qui me soutiennent et que j'aime. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui est un petit pâtissier dans le milieu. Il s'appelle Yann Couvreur. Et qu'il l'a pris personnellement cette histoire. On est comme des frères, hein. Il l'a pris personnellement. Je lui dis, putain, j'ai les boules, la gaufre. 250 000, je peux pas mettre 250 000 dans une recette de gaufre. Il m'a dit, t'as dit quoi? On était en train de déjeuner ensemble. J'ai dit, ouais, 250 000 euros pour une recette de gaufre. Il m'a dit, ok, on était un mardi midi. Il m'a dit, ok, à partir de demain, tu viens au labo. Je vais te la faire, moi, la recette de gaufre. Il l'a pris très personnellement. Il dit, si quelqu'un est capable de revendiquer 250 000 euros pour une recette de gaufre, il dit, t'inquiète pas qu'on va la faire. On va la faire, on va être capable de revendiquer plus. Et il m'a rendu un service, je pense, sans qu'il se rende compte, extraordinaire. Après, j'ai bossé comme un acharné dessus. Il m'a ouvert les portes de son labo. Il m'a dit, voilà, j'ai 3 chefs pâtissiers de recherche et développement. Ils sont à ta disposition. Tu viens quand tu veux. Ça prend le temps qu'il faut. Mais tu ne pars pas d'ici tant que tu n'as pas fait ta recette de gaufre. Et tant que tu n'es pas content comme ce que tu voulais. Ça a pris 9 mois.
Une gestation.
9 mois. Je préfère que ça me prenne 9 mois de mon temps que payer 250 000 euros. Et j'ai réussi à faire la gaufre que je rêvais de faire. Mais c'était encore une fois par frustration que je l'ai faite, la gaufre. Et une fois qu'on a abouti... Alors déjà, Yann, quand il a goûté, il a kiffé. Mais au-delà de ça, j'ai été la faire goûter à...
Pas mal de grands noms. Moi, j'ai goûté.
Ouais, je voulais ramener exactement. Trop bonne. Et j'ai commencé à faire goûter à pas mal d'amis à moi pâtissiers qui m'ont dit waouh. Et c'est là où je vois que, ok, j'ai un truc. Et je fais goûter à de plus en plus de gens. J'en ai livré à pas mal de mes connaissances. Et genre, ouais, elle est addictive, elle a ce truc. Moi, j'ai envie d'une deuxième, j'ai envie d'une troisième. Ouais. Et,
hâte que ça ouvre.
La gaufre, elle s'est faite de frustration. Voilà. Voilà comment mes créations se font. C'est j'ai envie d'un truc. Je vais aller le goûter, je vais aller l'apprendre, je vais aller essayer de m'imprégner ce truc et je vais essayer de l'interpréter à ma façon. Ma gaufre n'est pas celle de Hagenholz, hein. Attention, je n'ai pas cherché à reproduire la même que la sienne.
C'est la tienne. C'est comme ton club sandwich, c'est comme ta recette.
Alors que le club sandwich du Bristol est juste incroyable et j'ai un plaisir à y aller. Parce que il est quand même excellent et ça n'a pas le même goût que le mien. Voilà.
Petit questionnaire,
Let's go.
La relève dans le
okay.
dans l'interview. Qu'est-ce que signifie pour toi la relève, le mot la relève?
Challenge. La relève, c'est relever des défis. C'est pour moi la relève, c'est la suite, c'est la succession. C'est ça représente pas mal de choses, mais ça représente du positif, ça représente de la force, ça représente voilà, quand tu me dis la relève, là, moi, je vois une course de relais et je vois quand tu passes le relais et que tu as le premier et le deuxième, il va essayer de mettre encore plus de puissance que le deuxième et au troisième. Et voilà ce que j'ai en tête quand tu me parles de la relève.
Ton nouveau kiff culinaire?
Ah, mais je suis un gourmand, j'aime tellement de choses.
Là, le dernier, là.
J'ai mangé des tacos il n'y a pas longtemps en Floride à Miami qui m'ont...
Retourné?
Qui m'ont, ouais, pas mal. Vraiment, mais tu sais, les tacos que tu vois comme dans les séries sur Netflix, c'est le truc qui t'envoie le coup d'ananas comme ça, il te le jette dans l'autre côté de sa main, la broche, la tortilla qui est faite minute. Bon, et c'était vraiment un des meilleurs tacos que j'ai mangé. Là, récemment, le dernier petit kiff culinaire que j'ai eu. Après, en ce moment, je suis beaucoup dans le sucré avec la gaufre. C'est une addiction.
Ton livre de recettes secrets?
Matty Matheson, le chef canadien. Je suis toutes ses vidéos, c'est une de mes plus grandes inspirations. D'ailleurs, c'est un de mes rêves, c'est de pouvoir faire une collab avec lui. Un de mes rêves, on parle d'un rêve vraiment et d'un objectif. Et c'est vraiment ses livres, pour moi, sont vraiment les... même si je n'ai pas pris beaucoup de recettes, mais les idées, l'inspiration, l'identité, tout ça pour moi, et je me nourris de ça.
Une technique découverte récemment ou redécouverte ?
La cuisine à basse température, sous vide, vapeur, voilà toute cette petite technicité qui me permet de faire, voilà, j'ai fait un sandwich à l'omelette soufflée, j'aurais jamais pensé être capable de pouvoir faire un truc comme ça, voilà.
Le chef ou la chef montante à suivre ?
Il y en a plusieurs, j'ai une amie à moi dont je suis très proche qui est partie à New York il y a pas longtemps, qui est la chef Alexia Duchesne. Qui pour moi peut marquer la scène food américaine par sa patte française. Il y a aussi c'est pas en vogue, c'est pas en montée, mais c'est un autre ami à moi qui s'appelle Jaïs, qui a un restaurant qui porte son nom chez Jaïs, qui pour moi est une identité de la cuisine et pour moi qui est une image de la cuisine française aujourd'hui qui lui est propre. Avec des excellents produits, et c'est ça va être pour moi la personnalité, l'identité et la cuisine que je vais aimer vraiment et qui fait partie de la représentation de la cuisine française.
Et un compte Instagram que tu veux nous faire découvrir ?
Homer Food Group. Non, un compte Instagram que je vais vous faire découvrir, ça va être un compte de bouffe, forcément. Compte de bouffe qui va voyager un peu partout dans le monde et qui va nous donner un peu des adresses un peu secrètes, que ça soit à Tokyo, que ça soit au Mexique, que ça soit à Los Angeles, que ça soit à Paris. J'en ai pas comme ça de nom, mais sinon, si tu me suis sur mon compte, je voyage beaucoup, donc je peux dénicher pas mal de recettes. Voilà.
Comment tu te présentes aujourd'hui ? Est-ce que tu te présentes comme un chef, un restaurateur, un entrepreneur ?
Restaurateur, non. Parce que pour moi, un restaurateur, ça a une image très, très propre. C'est une personne qui est dans son restaurant tous les jours. On vient limite pour lui. Je ne me considère pas comme un restaurateur. Je me considère, oui, comme un chef. Parce que, après, je n'ai pas la prétention. Moi, je ne veux pas qu'on m'appelle chef. Hein. Je n'ai pas de veste de cuisine pour te dire. J'aurais jamais. Et tu veux, je te dis une chose, pour moi, porter une veste de cuisine n'est pas légitime. Parce que je ne suis pas ce style de chef. Et je respecte tellement justement ce poste que pour moi, ce n'est pas légitime de me donner une veste de cuisine. Donc je suis chef par les recettes que je crée et par ce que je fais. Et autant chef dans les sandwichs qu'entrepreneur dans la vie.
T'es à ta place aujourd'hui ?
Ouais. Ouais, et limite, je la remets en question tous les jours et je me dis, mais putain, je suis pas à la bonne place. Je veux la place suivante.
Tu veux progresser ?
Ouais.
Mais t'es à ta place quand même.
Je me sens à ma place. Je me sens à ma place.
T'as bien fait de pas faire un master, de pas.
Non. Non. Et surtout, je sens que le travail paye. Ça prend du temps. Il y a rien de facile, il y a rien de rapide. Et je suis quelqu'un de très impatient, mais regarde où on est aujourd'hui. C'est par le biais du travail qu'on en est. On en est là. C'est pas tombé comme ça. On se rend pas compte, mais il y a 7 ans, il y a eu 3 ans de sacrifice où je suis pas sorti. J'ai pas eu la vie étudiante, sortir en boîte. Ça a pas été ma vie. Moi, j'étais focus sur faire ce que j'avais envie de faire. Donc et regarde, comme tu as dit, je me retrouve à la Dubaï, à Miami, je me retrouve à voyager. J'ai eu la chance de déjeuner avec un ancien président à plusieurs reprises. Je me retrouve à côtoyer des gens extraordinaires. Donc c'est...
Par ton travail.
Par mon travail, par le biais de mon travail. Je suis reçu à l'ambassade des États-Unis par l'ambassadrice elle-même pour lui faire mes spécialités. Donc c'est fou. Juste, voilà, pour faire comprendre qu'il n'y a pas de limite, même avec des sandwichs. Parce que c'est un plat à part entière, c'est de la cuisine, c'est une culture, c'est du partage, ce sont des bonnes choses. Et c'est... même les grandes personnalités aiment ça. Je me suis retrouvé à cuisiner pour The Weeknd, l'artiste, à deux jours d'affilée pour son concert au Stade de France, dans ses backstage pour lui et ses équipes.
Chic.
Qui aurait pu... Franchement, tu me demandes ça, je te dis, ça ne pourra jamais m'arriver. J'ai cuisiné 3 fois d'affilée pour Michael Jordan. Michael Jordan mangeait 3 fois mes lobster rolls.
chic aussi.
Tu vois ce que je... Mais c'est le fruit du travail. Si on... Et moi, des fois, je te jure, quand j'ai servi Michael Jordan, je me suis dit, est-ce qu'on est en train de se rendre compte que Michael Jordan est en train de manger un sandwich homard fait par un mec qui a grandi à Vincennes et Saint-Vendée, qui a 25 ans, qui n'a aucun rapport avec ce monde, qui sort de nulle part, et il est en train de manger mes sandwichs. Je n'ai pas de photo à l'appui, parce qu'interdiction de faire une photo, il n'en fait pas. Mais juste pour l'expérience que j'ai vécue, c'est... Bah ouais, je suis à ma place complètement. On ne peut pas être plus heureux que ça. Ce n'est pas qu'une question d'argent, l'entrepreneuriat. C'est aussi ce que tu vis, ce que tu rencontres, ce que tu partages, ce que tu développes. Et pour moi, c'est ça l'aboutissement. C'est faire plaisir aux gens. Et aujourd'hui, on en est là parce que je pense que j'arrive à faire plaisir aux gens par ce que je fais.
Est-ce que tu arrives à prendre du recul et à te dire « Waouh, c'est cool ce que j'ai fait » et pas être toujours dans l'après, comme tu disais? Ouais. Tu vois, je vais être à la place d'après.
À chaque aboutissement de projet. En fait, à chaque ouverture de restaurant, à chaque nouvelle pierre à l'édifice, je m'assois et je regarde derrière. Et je me dis, putain, tu te rappelles quand je faisais ouverture-fermeture sans pause? Tu te rappelles quand je faisais le food market, je faisais tout seul? Des fois, je parle avec Adèle, je dis, tu te rappelles qu'on était que tous les deux, qu'on se donnait les pauses? Ma mère était en caisse, moi j'étais en cuisine au tout début. Donc, et je le fais à chaque fois qu'il y a une évolution, à chaque fois qu'il y a un step, je me pose et je regarde et je me dis, putain, il est loin le temps. Et il y a des fois, ça me manque. Il y a des fois, cette époque me manque énormément parce que je me dis, ben en vrai, si je pensais que j'avais plein de soucis à l'époque, mais mon rêve de revenir à cette période, je n'avais pas de problème, contrairement à aujourd'hui. Mais ça fait partie du job. C'est comme ça.
Et en même temps, tu as envie d'aller à l'étape d'après.
Voilà. Il y a des fois, je rêverais de retourner avec l'insouciance d'une
cabane au BHV.
Ou d'un petit resto dans le Marais à Odéon, on est détente. Et il y a là aussi, je me dis, où pour l'or du monde, je ne change pas ma vie. C'est-à-dire, je veux que aller de l'avant, je veux que plus, je veux que créer, je veux que rencontrer, je veux que voyager, je veux essayer de faire plaisir un maximum aux gens. Et c'est ce qui me fait me remettre en question aussi.
Quel est le quotidien de quelqu'un qui gère 12 restaurants ?
Très structuré. C'est très simple. Je fais du sport tous les jours, 5 fois par semaine. Je me réveille. Alors, je suis pas du tout mytho. Genre, je me réveille à 6 heures du matin, je fais mes mails, je regarde l'horizon, je réfléchis. Pas du tout.
Tu médites.
Je me lève à 8 heures. Je me réveille tous les jours à 8 heures. À 8 heures en général, de 8 heures 15, je fais pendant une demi-heure mes mails. Je me mets à la page, que ce soit mes mails, les réseaux sociaux. Je me mets à la page sur tout ce que j'ai raté pendant ma nuit. 9 heures, je suis au sport. 9h en général, je vais au sport, du lundi au vendredi, sport, et après j'entame ma journée de travail. J'ai des bureaux dans le 15e, je n'y vais jamais, je n'ai pas d'ordinateur. Mon boulot, c'est d'aller dans les restos, m'assurer que tout se passe bien, créer des nouvelles recettes, signer des nouveaux contrats, développer, marketer, faire des tournages vidéo. Et c'est ça toute la semaine, c'est du relationnel. J'aime beaucoup aller au restaurant le soir, donc j'essaye d'en faire 2-3 fois par semaine. C'est aussi du relationnel, c'est pas que c'est du plaisir perso, c'est aussi
d'inspiration aussi.
Ouais, enfin, l'inspire, relationnel, réseau, c'est ouais. tout est lié. Et par contre, c'est impératif, mais j'ai besoin d'une journée où je ne sors pas de chez moi. Et j'alterne entre canapé, lit, commander McDo. Mais tu sais, t'as le cerveau qui se coupe.
Ouais, t'as besoin de ressourcer.
Ouais.
D'éteindre.
Ouais. Voilà. Donc si tu veux. Une semaine type, c'est ça, c'est très structuré. C'est sport tous les matins, du lundi au vendredi. C'est des sorties resto 2-3 fois par semaine. C'est une journée off complètement. Et voilà, et après, je bouge énormément. Donc, ça fait que je stagne rarement.
Tu cuisines beaucoup ?
Pour les autres, ouais. Quand je suis seul à la maison, non. Par contre, quand je reçois des amis, je fais un kiff d'aller au marché. Je fais un kiff de cuisiner, de recevoir plein de monde à la maison. C'est mon vrai plaisir.
Et au resto encore aussi ?
Faire des sandwichs pour les services, non. Par contre, quand j'ai envie de faire des nouveaux essais,
quand
j'arrive au resto, je m'assois, j'ai faim, j'ai pas envie de manger dehors, mais j'ai pas envie de manger ce que je fais. Allez, là, je passe en cuisine et je me dis, bah, peut-être on a une,
ouais, on un a une créa qui se bien, fait. Ouais.
Voilà. Et en général, ça se fait.
Quel conseil tu donnerais de ton grand âge à ceux qui souhaitent entreprendre dans la food ?
Dans la food. C'est important de préciser dans la food. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de gens, de ce que j'ai remarqué, beaucoup de gens se focus sur des concepts. un marketing, un environnement, un lieu, un design. Mais on parle d'un concept food. Et je pense que si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord se focus sur le produit. Ce qu'on va faire, il faut que on le goûte, on dit bah ouais. Si c'est un chef qui veut monter un restaurant, mais il faut que sa cuisine elle soit folle. Il faut que ce que je mange, ça me mette sur le cul. Et pour moi, quelqu'un qui veut entreprendre dans la food, il doit d'abord se focus sur la food. Et le reste viendra après. Moi, avant de penser à appeler Homer, à faire des dessins, à faire trucs, il fallait que mon lobster roll, je le fasse au food market et que les gens, ils me disent ah, le lendemain, ils m'appellent, t'en refais pas là bientôt, j'en veux. Voilà.
Ouais, faut avoir envie de revenir.
Ouais. Ça, donc, c'est se focus vraiment sur la food. Et surtout, quand ils vont se rendre compte que c'est très compliqué d'entreprendre en France, pas lâcher. Il y a un plan A. S'ils ont eu cette idée, il faut qu'ils aillent au bout. Voilà.
Tu as encore pas mal de projets sur le feu. On parlait donc de ton café rue Rambuteau, Londres, chez Harrods, où tu vas ouvrir en fin d'année un atelier plus premium, un atelier du sandwich. D'autres.
Ouais, il y a. Comme tu as dit, il y a le café qui ouvre rue Rambuteau, là au 1er mai. Normalement, on ouvre notre première boutique à Londres, qui sera au sein de Harrods, au 3e étage. Où là, mon idée est complètement inspirée de l'atelier de Joël Robuchon, qui est un restaurant gastronomique extraordinaire, un concept énorme, où tu manges au comptoir, tu as la cuisine au milieu, il se passe une espèce d'énergie. Et ben à Harrods, je vais faire l'atelier d'Homer, tout simplement en hommage à l'atelier de Joël Robuchon, où ça va être l'atelier du sandwich. On va y retrouver tout ce que je fais à travers mes trois différents concepts. Homer, Jeannette et le café. Et regroupé en un seul avec des nouveautés. On va être dans le, je pense, le concept le plus de sandwich le plus luxueux au monde. Ça, luxueux ne veut pas dire cher. Mais c'est dans la présentation, c'est dans la façon de faire. C'est dans l'offre food. C'est pas parce que c'est luxueux que ça doit être forcément cher. Mais c'est dans l'attention, c'est dans le détail. Comme ce qu'on peut retrouver à l'atelier de Joël Robuchon. Ce qui va ensuite me faire mettre un premier pas dans le marché londonien parce que je souhaite développer, faire le même développement que j'ai à Paris mais à Londres. Il y a aussi un projet dans l'audiovisuel sur la street food, un projet de série documentaire sur la street food qui est un projet énorme. Il y a un livre qui va se faire aussi sur l'anatomie des sandwichs parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire dessus. Et c'est légitime que je ne vais pas faire un livre de recettes, parce que je ne me considère pas comme chef, mais je vais faire... dedans, ça sera un peu dans le délire lifestyle, voyage, recettes, histoire, anecdotes.
Ouais. Ta vision de...
Ma vision des sandwichs. Et que voilà, je peux voyager dans le monde entier pour manger des sandwichs. Donc c'est un peu ça. Et la série docu va représenter ça aussi. Donc voilà, pas mal de projets et j'espère que c'est encore que le début.
Tu te vois où dans 10 ans?
J'espère avoir réalisé mon rêve et être parti aux États-Unis.
Et la boucle sera bouclée.
Non, parce que c'est jamais bouclé, mais j'espère vraiment avoir atteint cet objectif d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir et tout ce qui était nécessaire pour que ça tourne, pour que ça grossisse et pour que j'ai l'opportunité que je me la crée pour pouvoir aller là où je veux.
Et
vivre mon rêve. Tout en continuant ce que je fais, peut-être ça sera plus ça, peut-être ça sera autre chose, mais je vois pas de fin Homer, du moins pas du tout de suite, mais être aux États-Unis. Donc dans 10 ans, je me vois, voilà, si j'ai un truc, c'est être aux États-Unis.
Dernière question, une recette qu'on peut faire à la maison.
Tuna melt, un grilled cheese. Mieux. C'est mon sandwich préféré sur Terre. C'est un sandwich poulet rôti avec les restes du poulet du lendemain. Donc le lendemain, tu dépiottes ton poulet, t'achètes une bonne baguette chaude, mais vraiment belle tradition, un peu croustillante. Que tu veuilles faire une mayo maison ou pas, on s'en fout. Tu prends une base de mayo, tu la pimpes un peu avec du poivre, du sel, un peu de jus de citron, un peu de hot sauce, un truc sympa. Pour moi, moi j'aime les tomates dans le sandwich. Donc je mets des tomates, cornichons, et le poulet, en fait, tu le dépiottes à froid. Tu prends une poêle en fonte, tu mets un fond d'huile d'olive, un peu d'ail, okay, que t'as râpé. Tu mets tout le poulet et tu le presses sur ta poêle en fonte. Tu mets feu à fond. Ça va te créer une croûte croustillante. Tu laisses 8-10 minutes, hein, mais tu presses. Et ensuite, tu décroches. Hop, juste tu fais tourner 30 secondes pour que ça cuise de l'autre côté ou que ça réchauffe de l'autre côté. Tu le sors. C'est limite, ça te fait un bloc comme ça. Et tu prends et tu mets dans ton sandwich. Donc, tu as le pain qui a été au four, qui est chaud, qui est très moelleux, croustillant et moelleux. T'as ta mayo, tomate, cornichon, et tu mets tout ton poulet, et tu refermes. Et pour moi, t'es sur le meilleur sandwich du monde.
Que tu ne fais pas encore au restaurant ?
Non, au restaurant. Mais je ne le ferai même pas au restaurant. Parce que c'est tellement... c'est mon plaisir. Ça, c'est pour moi, bah, quand je suis chez des gens, quand on est à la maison, quand truc... Limite, j'achète du poulet rôti pour faire ce sandwich directement. C'est pour moi le meilleur sandwich du monde.
Merci Moïse.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter l'interview de Moïse Fès. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous dans ses différents établissements Omer et Janet à Paris, Marseille, Saint-Tropez et même Dubaï. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment le suivre sur Instagram sur ses comptes moisefès_omer et omerfoodgroup. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et suivre À Poil Podcast et agence_larelève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'À Poil.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.